La carte blanche, Africa Radio.
Notre invité, carte blanche, est déjà en ligne, mais avant de le retrouver, je vous rappelle que ce soir, nous parlerons des conséquences de la suspension de l'aide française à la Centrafrique, l'aide de 2020 et celle de 2021. Et il est en ligne de Abidjan, notre invité, carte blanche. Venance Konan, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, écrivain, notamment du best-seller Les prisonniers de la haine. Vous êtes également, Monsieur Konan, directeur général du groupe de presse gouvernemental ivoirien Fraternité Matin. La France... Pardon, Monsieur Konan.
J'ai dit c'est ça.
Voilà, exact. Donc, la France a décidé de suspendre toutes ses opérations militaires conjointes avec les FAMA, les forces armées du Mali, en réponse au putsch du colonel Goïta. Pour vous, cette décision est-elle appropriée ou s'agit-il d'une réaction excessive?
Ça me semble un peu excessif. Je comprends parfaitement que la France ait envie de remettre les choses en hausse, parce qu'elle a eu le sentiment que les militaires sont déviés. Mais il ne faut quand même pas oublier que la France aujourd'hui se retirait de cette affaire de lutte contre le terrorisme. C'est un peu délicat. Si la France ne soutient pas l'armée malienne et qu'elle va déboire, c'est tout le travail que la France a fait depuis une dizaine d'années qui s'écroule. Donc, je comprends bien qu'on veut tordre au colonel qui dirige le Mali en ce moment, mais seulement pour savoir jusqu'où aller. Elle est limitée à ne pas franchir. Je pense que. En fait, la France, elle est un peu piégée aujourd'hui parce qu'elle ne peut plus se retirer. Les Italiens sont extraordinaires et tout, mais sans le dispositif technique français, sans ce que la France fait là-bas, je ne vois pas très bien les soldats maliens venir à bout de ce terrorisme-là. Et si les Maliens n'arrivent pas à venir à bout, ben on a vu que ça s'est passé. Ça s'est propagé au Burkina Faso et bientôt en Côte d'Ivoire.
On espère que la ligne va s'améliorer hein, en termes de qualité avec Abidjan. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Mais on poursuit avec vous, Venance Konan. Est-ce que vous pensez, comme certains experts, que les conséquences de cette suspension de la France peuvent aller au-delà même du Mali?
Si je veux le dire, si je crois que c'est un moment d'humeur, ça va passer. Mais si la France veut rester dans cette position-là, on a vu les djihadistes qui ont pu mettre les pieds au Burkina Faso, au Niger, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire, région de Kafoula, a été plusieurs fois sous le feu des
attaques terroristes, tout à fait.
Donc, voilà, des attaques de ces djihadistes-là, ça veut dire que toute la région qui est menacée. Donc, j'espère que la France a manifesté sa bonne humeur. Après le coup des colonels, personne n'est d'accord avec un coup d'État. Je suis d'accord, mais seulement, ça n'a pas raison de garder.
Et deuxième... trop loin. D'accord. Deuxième sujet, M. Konan, c'est ce retour annoncé de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour le 17 juin prochain. Après l'étonnement exprimé par le gouvernement qui disait n'avoir pas été associé au choix de cette date, eh bien tout semble rentrer dans l'ordre puisqu'il a pris acte du retour de M. Gbagbo à cette date. Mais la question du format du retour reste en suspens.
Voilà notre psychodrame du moment. Bon, à mon avis, dès lors que le président de la République a dit qu'il est d'accord pour que Laurent Gbagbo vienne quand il veut, tout le reste, c'est du détail. Donc, on a envie de se faire peur. En ce qui concerne le format, on ne peut pas empêcher quelqu'un de manifester sa joie. Si Gbagbo arrive et que ses militants, ses parents, enfin, tout ce qu'il aime bien, veulent danser, veulent le manifester, mais qu'ils le fassent. Il faut qu'eux aussi tiennent compte du fait que pas trouver l'ordre public plus parce que M. Gbagbo arrive. Donc, il y a un juste milieu qu'il faut savoir trouver. Que sa famille, que ses proches aillent l'attendre à l'aéroport, oui. Si le peuple n'a pas besoin d'aligner de l'aéroport jusqu'à son domicile, il peut aller faire la fête dans leur quartier, faire la fête son domicile, faire la fête dans leur village.
Donc, pour vous, vous diriez, quand vous entendez, on dirait que pour vous, c'est un faux débat.
Pour moi, c'est un faux débat, c'est vraiment un détail. Le plus important, c'est que M. Gbagbo est autorisé à rentrer. Et on a dit qu'il peut rentrer quand il veut. Maintenant, si les gens veulent dans la rue, s'ils veulent danser dans les maquis, c'est leur droit. Seulement, je reconnais aussi le droit à l'État de veiller à ce que l'ordre public ne soit pas troublé, parce que trop de débordements peut entraîner beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas en se prenant ici. Donc, il y a ces deux aspects-là. Il y a l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect maintien de l'ordre, l'ordre public, il faut en tenir compte, et puis il y a la joie des militants, les partisans de Laurent Gbagbo, donc il faut tenir compte aussi.
On va rester en Côte d'Ivoire, Venance Konan, pour parler de la célébration le week-end dernier à Abidjan, des 50 ans de carrière du styliste Pateo, habilleur de personnalités africaines. Et à ma connaissance, vous êtes également habillé en chemise Pateo au moment où vous nous parlez, Venance Konan. Vous êtes fan de ce styliste hors pair?
Tout à fait, tout à fait. Je suis, quand vous parlez de personnalité, je me flatte. Je me considère comme une personnalité parce que je m'habille très, très souvent en Pateo.
Évidemment.
Je pense que c'est un de nos plus grands créateurs. Je le connais depuis plus de 30 ans. Je me donne son amitié et depuis toujours, je m'habille. Quand je suis pas en costume européen, mais je suis en Pateo.
J'ai entendu.
Qu'on lui fasse la fête.
Oui, quand je disais personnalité, je pensais à Nelson Mandela, par exemple, ou Kofi Annan.
Oui,
cela ne signifie pas que vous êtes non moins une personnalité.
Voilà. Je suis flatté d'être dans ce groupe-là.
D'accord. Alors, Venance.
Pateo a pu.
Oui, allez-y.
Oui.
Pardon, allez-y, terminez.
Je voudrais féliciter Pateo d'avoir créé cette mode-là qui a permis de montrer que nous avons des créateurs aussi, nous avons des couturiers qui peuvent adapter nos propres habits, nos propres couleurs et les porter très, très loin dans le monde. Et franchement, il fait du très bon travail et il est une fierté nationale.
Merci beaucoup, Venance Konan, d'avoir été notre invité des cartes blanches de ce vendredi. Vous êtes journaliste, écrivain et directeur général du groupe de presse gouvernemental ivoirien Fraternité Matin à Abidjan. Bon week-end.
Africa, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Emmanuel Macron a décidé de suspendre l'aide budgétaire 2020 de la France à la Centrafrique et celle de 2021 est également suspendue et ne sera pas décaissée. Quelles conséquences sur la Centrafrique ? Nous en parlons ce soir avec trois invités. Roger Andjalandi, membre du bureau politique de MCU, Mouvement Cœurs Unis du président Faustin Archange Touadéra, et également délégué Zone Europe du MCU. Monsieur Adjalandi, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir, madame.
Bienvenue à vous, Maître Nicolas Tchangaï. Maître Tchangaï,
bonjour, madame.
Bonjour, vous êtes ancien Premier ministre centrafricain et porte-parole de la coalition de l'opposition démocratique Côte 2020. Merci d'être avec nous. Merci également, Adrien Poussou, bonsoir. Expert en géopolitique, spécialiste de l'Afrique et également ancien ministre centrafricain et de la réconciliation nationale. On me fait signe qu'il devrait m'entendre. Monsieur Poussou, bonsoir.
Bonsoir, madame. Est-ce que vous me recevez?
Moi, je parfaitement.
Vous reçois 5 sur 5.
Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, monsieur Adjalandi, sur cette décision de la France annoncée par monsieur Macron. Étiez-vous préparé à cette annonce?
Tel qu'on ouais, on pourrait suspecter tout. Dire que c'est que ça reste quand même un coup dur. Ça, un coup dur, cette pression-là. Et donc, qui est d'ailleurs l'expression de la nervosité en cours, enfin, dans l'air.
On parlera des conséquences tout à l'heure. La question était
oui,
ça. Est-ce que vous étiez préparé? Est-ce que vous attendiez à cette décision d'Emmanuel Macron ou est-ce que vous avez été surpris?
Oh, surpris, non, pas vraiment. Pas vraiment. Je veux dire que quand on analyse la situation, on voit très bien, puisqu'il y a eu certaines déclarations qui ont précédé cette décision-là, donc on peut penser que simplement c'était prévisible, du moins. Puisque la
au regard aussi des relations tendues avec Bangui.
Tout à fait. Ouais. Donc il y avait de la nervosité un peu dans cette relation-là, donc par conséquent, du fait du rapprochement donc avec la Russie, il faut le dire très vite, du fait du rapprochement avec la Russie, donc naturellement, il y avait de la nervosité dans l'air et donc la France a estimé que bon voilà qu'elle pouvait peut-être pas indéfiniment continuer à financer le virage hein, parce qu'il y a quand même un virage dans notre diplomatie, hein, voilà. Et donc la France a peut-être pensé qu'elle ne pouvait pas indéfiniment financer ça, mais je veux dire que ça c'est...
Donc pour vous, cela ressemble quand vous entend à des représailles?
Oui, plus ou moins, parce que plus ou moins, parce que il n'y a pas de raison qui est donc liée à la gouvernance budgétaire. Il n'y a aucune raison, je veux dire. Voilà. Donc il n'y a pas de raison économique, je veux dire. Donc c'est une raison. Et la raison, elle est politique. Hein, elle est politique. Donc ça veut dire très clairement que bon, la France a décidé de mettre un peu de la pression, puisqu'on est de mettre la pression pour permettre donc peut-être au pays de revenir à la situation traditionnelle, hein, puisque c'est ça, puisque vous comprenez très bien aussi que la France a toujours conçu son développement qu'en compatibilité avec les anciennes colonies. Donc aujourd'hui, si une des anciennes colonies se libère un peu, ou alors a une autre notion, une notion de la,
ou s'affranchisse de son influence.
Oui, voilà. Donc voilà, puisque aujourd'hui nous sommes en train de diversifier nos intérêts. Donc je veux dire que ça aussi, ça ne colle pas avec la compatibilité que la France souhaite.
Merci.
Donc ça aussi, ça peut justifier cette réaction-là.
Maître Tiangaï, comment au niveau de l'opposition vous avez réagi à l'annonce de cette suspension?
Disons que cette suspension de l'aide budgétaire française à la République centrafricaine était prévisible, étant donné que les relations entre les deux États étaient devenues tumultueuses ces derniers temps, en raison de l'instrumentalisation d'une partie de la population par les mercenaires russes qui étaient montés contre la France à travers des médias, les réseaux sociaux, etc. Et d'une part, et d'autre part, parce que on soupçonne que l'aide apportée à la RCA, une partie serait détournée pour payer les mercenaires riches du groupe Wagner. Il est évident que dans ces conditions, la France ne pouvait que durcir sa position.
Donc vous comprenez la position de la France, même si M. Adjalandi affirme que cette décision n'a rien à voir avec d'éventuels problèmes de gouvernance, de gestion de ce budget?
Ah si, il y a un problème de gouvernance. Je crois que l'utilisation des fonds alloués à la RCA à des fins qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des populations, ça pose effectivement un problème. C'est la raison pour laquelle la France a estimé qu'elle ne peut pas d'une part continuer à soutenir un État qui d'autre part utilise ses moyens, les moyens qui lui sont accordés pour... faire autre chose avec.
Est-ce qu'il est établi, comme vous le dites, que le gouvernement centrafricain utilisait cet argent, ou au moins, ou tout au moins une partie de ses fonds pour payer les mercenaires russes?
Mais je pense que la République centrafricaine n'a pas les moyens aujourd'hui pour payer les mercenaires russes avec ses ressources internes. Donc, vous savez que c'est un pays qui dépend essentiellement de l'aide internationale, même les salaires. Une bonne partie des salaires des fonctionnaires, les bourses des étudiants et même les pensions des retraités, tout cela, une bonne partie est financée par l'aide budgétaire internationale.
Merci.
Et donc, le paiement des salaires des mercenaires n'est pas prévu dans le recette au niveau du budget national. Donc, il n'est pas impossible que l'aide internationale soit détournée à des fins qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la population centrafricaine.
Pour lesquelles cette aide est destinée. Merci, Maître Tiangaï. On va écouter l'analyse d'Adrien Poussou. Monsieur Poussou, comment analysez-vous cette décision et d'après vous, quel est le message que Paris voudrait faire passer aux autorités centrafricaines?
Écoutez, c'est par exaspération, hein, et puis... Je pense que après avoir essayé de faire entendre raison en vain aux autorités centrafricaines, que Paris en est arrivé à prendre cette décision. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que je suis étonné que le représentant du MCU sur votre plateau ait pu dire qu'il n'y a pas eu de problème de gouvernance. Il faut vous souvenir qu'en décembre, lorsqu'il y a eu l'attaque de la coalition des patriotes pour le changement CPC.
La rébellion.
Le corridor, la rébellion, le corridor Bangui-Douala, qui est le corridor vital pour l'économie centrafricaine, avait été coupé par les soldats, en tout cas les miliciens de cette rébellion-là, ce qui a fait baisser de façon drastique et officiellement 20% des recettes de l'État. Un État qui ne vit que grâce à l'aide extérieure qui représente la moitié de ses recettes, il faut le dire, lesquelles sont systématiquement détournées, puisqu'on voit pousser dans la ville de Bangui chaque mois des villas et autres. Il y a même un nouveau quartier qui a été construit à Bangui qu'on appelle Bellevue, qui est habité par les tenants du pouvoir en place. Eh ben, ce quartier est l'illustration de la captation des ressources étatiques et de...
Monsieur Poussou, vous faites, ce sont des affirmations. Est-ce que vous avez pu faire une enquête pour établir que le quartier dont vous parlez est les maisons construites dans ce quartier ont été financées par de l'argent public détourné ou supposé détourné par des membres ou des responsables du parti au pouvoir?
Souvenez-vous, madame, du rapport de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. L'IFRI ne peut pas être soupçonné de connivence avec l'opposition ou être contre le pouvoir de Bangui. En mai 2020, l'IFRI avait publié un rapport, je dirais, fort pertinent, intitulé « Acheter la paix conduit à la guerre ». Processus de paix, captation de l'aide et corruption en Centrafrique. Ce rapport a détaillé comment est-ce que, en tout cas, le mécanisme qui est mis en place par un certain nombre de dirigeants de la Centrafrique pour capter l'aide internationale, pour s'enrichir. Ce n'est pas Poussou qui le dit. Ce sont des observateurs tout à fait crédibles, tout à fait sérieux, tout à fait impartiaux. Qui le disent.
Merci. Oui. Merci beaucoup.
Nous sommes centrafricains, on se connaît tous, madame.
Je ne sais rien du tout, mais je fais que poser des questions pour nous assurer que chaque déclaration qui est faite ici est soutenue par des faits probants. Je vous propose, messieurs, de nous retrouver dans quelques instants pour parler effectivement des conséquences possibles de cette décision française sur la Centrafrique. À tout de suite. Et nous parlons dans notre émission ce soir, mais avant toutes nos excuses pour cette interruption brutale de nos programmes. Retour donc dans votre émission Le Grand Rendez-vous et nous parlons des conséquences sur la Centrafrique de la décision prise par la France de ne pas débloquer l'aide budgétaire 2020 à la Centrafrique, de même que celle 2021. Et nous en parlons avec trois invités. Adrien Poussou, expert en géopolitique, spécialiste de l'Afrique. Vous êtes ancien ministre, Monsieur Poussou, et vous intervenez quelque part dans le monde. Vous n'avez pas souhaité nous préciser où. Et nous avons à Bangui, Maître Nicolas Tiangaï, ancien Premier ministre et porte-parole de la coalition de l'opposition Code 2020, et Roger Andjalandi, membre du bureau Mouvement Cœurs Unis du président Touadéra et également délégué Zone Europe. Vous êtes à Paris. Monsieur Andjalandi, je vous laisse quelques secondes pour répondre aux accusations formulées par les précédents intervenants, selon lesquelles une partie de l'argent était, semble-t-il, mal gérée et peut-être finissait dans des projets personnels, des constructions de maisons de certains responsables du pouvoir.
Tout ça n'est pas établi. Je veux dire que le fait que ce serait la raison qui pousserait donc sur laquelle la France serait fondée pour suspendre donc l'aide budgétaire serait dû donc à un détournement. Non, je crois que vos invités parlent aussi de détournement, je crois que la question du détournement, c'est un phénomène qui a toujours structuré nos finances publiques. Donc, il ne date pas de Touadéra. Vous êtes d'accord avec moi que que depuis toujours, il a toujours existé au sous-sol de l'État centrafricain, une espèce comme ça de plomberie, de tuyauterie financière qui a toujours détourné les fonds de l'État. Bon, maintenant, si la France avait pensé qu'il était question simplement de détournement de fonds, elle aurait pu faire ça depuis toujours, depuis 10 ans en arrière, 3 ans, ça date pas de maintenant. Donc, la France a bien, et vous avez bien fait de relever, madame, au début de votre introduction, que la raison que la France avance, c'est dû au fait, du moins d'après ce qu'elle la France
que
dit.
Que le président Touadéra est devenu l'otage du groupe.
Voilà. Et donc, le président serait en train de financer, du moins le groupe, enfin, soi-disant le groupe Wagner, serait en train de se financer en exploitant les ressources du sous-sol. Enfin, c'est ça la raison.
Mais justement, ça me permet de relancer sur cette autre question avant de parler des conséquences, à proprement parler, de cette décision sur la Centrafrique, dans quelques instants. Comment le groupe, les mercenaires, certains parlent de mercenaires, d'autres d'instructeurs, comment sont-ils payés?
Mais d'abord, je vous fais comprendre qu'il n'y a pas de mercenaires. Hein, il y a des instructeurs. Hein, la sémantique a son importance ici. Donc, je veux dire, voilà. Donc, ce sont des instructeurs russes dans le cadre donc d'un accord de défense. Et donc, cet accord de défense-là a une déclinaison opérationnelle sur le terrain. Et donc, ces instructeurs russes participent aujourd'hui sur le terrain à des combats. Voilà. Donc, c'est juste une déclinaison d'un accord.
Oui, le gouvernement dit que c'est dans le cadre d'un accord avec le ministère russe de la Défense, sous l'œil des Nations Unies. Alors, ma question était de savoir comment sont-ils rémunérés?
Mais ils sont rémunérés.
Parce que j'imagine qu'ils ne travaillent pas gratuitement.
J'imagine bien, mais bon, je ne suis pas, je veux pas ici vous détailler, faire étalage d'un certain montage financier ou je sais quoi pour financer les.
Excusez-moi, la question est importante, monsieur, parce que la France, d'après ce que dit monsieur Macron, ces agents qu'on appelle mercenaires ou instructeurs, c'est selon le camp, pillent les ressources, donc cela pourrait peut-être sous-entendre qu'ils sont payés par en nature avec
si on retient
les ressources minières centrafricaines. C'est ce que insinuerait le président français.
Naturellement, c'est-à-dire que si on retient la terminologie de mercenaires, cela supposerait que l'État centrafricain serait en train de détourner de l'argent pour les financer. Mais si on parle de coopération, et vous êtes d'accord avec moi, là, de tradition, une coopération, ce n'est pas le pays qui reçoit qui finance. C'est dans le cadre de la coopération. La France aujourd'hui finance des opérations à l'extérieur. C'est la France elle-même qui finance ces opérations-là. Je veux dire que
c'est la Russie qui paye ses agents de sécurité.
Mais bien sûr, en fait, pas
ils ne dépendent pas du budget centrafricain.
Mais non, ils sont dans le cadre d'une coopération, madame. Ils sont dans le cadre de la coopération. Ce sont des instructeurs russes, donc des officiers russes. Ils sont payés, ils ont un salaire régulièrement, etc. Aujourd'hui, la Russie débloque l'argent pour les financer. On ne peut pas aller chercher plus tard. Et justement, c'est pour ça qu'on essaie de faire croire que ce sont des mercenaires et donc forcément aller tenter d'expliquer que ces mercenaires seraient payés sur le budget de l'État, donc en fait détournés, puisque ça n'apparaît pas dans le budget de l'État qui a été dans la loi de finances qui a été votée. Donc je veux dire que ça, tout ça n'est pas établi. Tout ça participe de cette contre-attaque médiatique qui consisterait donc à faire croire que le pays se serait détourné de la France et donc c'est un délit donc d'atavisme, je sais quoi. Enfin, je veux dire, mais c'est ce truc-là qui pose problème aujourd'hui. C'est une contre-attaque médiatique, non, c'est de la communication, quoi, je veux dire.
Merci beaucoup. Alors, Maître Tiangaï, pour qu'on ait une idée de quoi on parle, quand on évoque cette enveloppe suspendue, cette aide budgétaire 2020 et 2021, à quel montant cela correspond exactement? De combien, de quel chiffre parle-t-on?
Non, je ne connais pas exactement les chiffres, mais je sais que le montant est important, contribue essentiellement au paiement de salaires des pensionnaires pour 4 ou 5 mois dans l'année. Donc, c'est ce que je peux vous dire là-dessus.
Peut-être le représentant du parti au pouvoir, M. Andialandi, nous dira tout à l'heure quel est le montant réel de cette enveloppe 2020-2021 d'aide qui a été suspendue. Mais on aurait aussi aimé savoir les secteurs qui étaient soutenus par cette enveloppe. Mais pour revenir aux réponses que M. Andialandi a données tout à l'heure, M. Tiangaï, sur le fait que la décision de la France est purement politique et n'a rien à voir avec la réalité, qui serait selon vous qu'une partie de cet argent est détournée?
J'ai bien entendu mon compatriote MCU. Je pense que les mercenaires qui sont à Banville, on les appelle des instructeurs. Je crois que pour former des troupes, des forces de défense et sécurité, on n'a pas besoin de 600 instructeurs. Et puis les instructeurs, ils forment des gens dans les camps. Et quand eux-mêmes, ils prennent des armes...
Et il y a même une demande, pardon, et juste préciser qu'il faut dire qu'il y a également une demande de la part du gouvernement centrafricain pour augmenter le nombre de ces instructeurs.
Oui, une demande pour augmenter le nombre des instructeurs. La question, c'est de savoir est-ce que ces instructeurs-là sont envoyés par la Fédération de la Russie ou bien s'ils relèvent de la société Wagner. Hein, la société Wagner a créé des sociétés à Banville, comme Sewa Service pour la sécurité. Il y a une société forestière, une minière, je crois, qui s'appelle Dubai Investment. Je crois que c'est des sociétés écrans pour permettre donc à ces mercenaires de se faire payer par l'exploitation de nos ressources naturelles.
Donc vous estimez aussi que contrairement à ce que dit le représentant du gouvernement, c'est bien, ce sont les ressources minières qui permettent de payer ces agents de sécurité.
Ces ressources minières ne sont pas exploitées dans la légalité parce que personne ne connaît la nature des accords ou tout d'accord d'une part entre l'État centrafricain et la Fédération de Russie dans le cadre de ces relations bilatérales, parce que on nous parle d'accords bilatéraux entre les deux États, mais nous n'avons pas connaissance du contenu de cet accord, d'une part. Et d'autre part, tous les contrats qui concernent les ressources minières doivent faire l'objet d'un examen par l'Assemblée nationale en vertu de l'article 60 de la Constitution. Mais nous ne connaissons pas l'existence officielle, n'est-ce pas, de ces accords entre l'État centrafricain et les sociétés créées par le groupe Wagner en République centrafricaine.
Merci. Monsieur Poussou, est-ce que vous connaissez de quel montant parle-t-on avec, pour qu'on ait une idée des chiffres dont, qui correspondent à l'aide française 2020-2021?
En tout cas, on parle de 20 millions d'euros, 20 millions d'euros qui sont directement versés au Trésor public et qui servent, entre autres, à payer les salaires, les pensions et les bourses. Donc, il s'agit de ce montant-là. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Et puis, vous avez remarqué, tout comme moi, que le représentant du MCU, sur votre plateau, est gêné aux entournures pour répondre à votre question qui est assez pertinente. Comment est-ce que Wagner, en tout cas, comment est-ce que l'État centrafricain paye Wagner? Maître Tchangaï, en tout cas, le premier Tchangaï, il a dit, c'est notamment grâce à l'exploitation de façon opaque des ressources du pays, mais aussi, je l'ai dit, aux captations de l'aide extérieure. Mais pour revenir sur quelque chose que notre compatriote Andal Andi a dit, la République centrafricaine est un État, on va dire, souverain, mais un État enclavé qui ne doit pas faire l'économie de la diversification de son partenariat. Hein. Donc, Paris, la RCA ne devait pas jouer Paris contre Moscou, Washington contre Pékin. Nous avons besoin de l'apport de l'ensemble des pays extérieurs qui peuvent nous aider parce que notre survie en dépend. Seulement, les autorités centrafricaines, en tout cas le président Touadéra, a été débordé sur son côté par son aile dure, son aile dure qui est composée en grande partie par des gens dont le cursus scolaire est embryonnaire et qui ne connaissent pas les subtilités des relations internationales, qui ont cru que la présence russe en Centrafrique serait, en tout cas, serait destinée à écarter notre partenaire séculier qui est la France et qui ont organisé des manifestations pour dénoncer la France.
D'accord. Donc pour vous, on comprend entre les lignes que vous dites que oui, ces personnes qui manifestent contre la présence française ont été manipulées. Et vous diriez aussi que le président Touadéra est l'otage des Russes, comme le prétend aussi le président français.
Mais le président français ne croit pas si bien dire. Le président Touadéra aujourd'hui est devenu l'otage du groupe Wagner. Et je vous rappelle un fait qui s'est passé récemment lorsque les mercenaires là, même si on parle d'instructeurs, sont allés sur le territoire tchadien, ont violé le territoire tchadien, ont massacré, en tout cas ont tué des soldats tchadiens. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, justement. C'est pour contribuer à isoler le président Touadéra, à le couper notamment des voisins, des pays frères, de sorte qu'il reste et demeure leur obligé. C'est cela la réalité. Donc aujourd'hui,
dans l'attaque des forces, la poursuite des rebelles tchadiens, des rebelles centrafricains en territoire tchadien, dites-vous, était préméditée, préparé et encouragé par Moscou pour isoler le président Touadéra.
Prémédité, préparé, encouragé, non pas par Moscou, puisqu'il s'agit de Wagner. Wagner n'a pas d'existence légale en Russie. Donc, prémédité, encouragé par un groupe privé pour isoler le président Touadéra. La preuve,
merci.
La délégation que le gouvernement centrafricain a envoyée à N'Djamena a condamné cette attaque-là.
Merci, Monsieur Poussou.
Vous n'avez jamais vu un État condamner son propre armée. Donc, en creux, le gouvernement centrafricain dit que c'est Wagner qui a attaqué le pays frère du Tchad.
Merci beaucoup. À tout de suite pour conclure notre débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Dernière partie de notre débat ce soir sur la suspension par la France de l'aide budgétaire 2020 à la Centrafrique, de même que celle 2021. Avec nos trois invités, nous en parlons ce soir. Maître Nicolas Tchangaï, ancien Premier ministre et membre de la coalition de l'opposition Côte 2020. Adrien Poussou, expert en géopolitique et ancien ministre. Et Roger Andia Landi, membre du bureau du MCU du président Touadéra et délégué Zone Europe. Je vais m'adresser à vous, monsieur. Monsieur Adalandi, vraiment, on va aller très vite. Chaque fois que vous prenez la parole, 1 minute 30, je vais vous interrompre. Est-ce que vous pouvez confirmer le montant de 20 millions d'aide française avancée par M. Poussou ?
Ça tourne un peu autour de ça, à peu près, je pense.
Donc, ça fait
budgétaire,
20 millions fois 2, ça fait 40 millions.
Ouais, puis sur gelé, oui, bien sûr, oui, ça fait 40 millions à peu près. Oui. Si on part sur cette hypothèse de 20 millions... Oui, ça fait 40 millions qui seront donc gelés, oui, c'est vrai.
D'accord. Et il expliquait que, M. Tchanga expliquait que cela va avoir eu des conséquences sur les salaires des fonctionnaires, que ce montant permettait d'éponger, de même que les bourses des étudiants. Comment allez-vous faire pour combler le gap ?
Bon, vous savez, bon, ça, le ministre des Finances serait bien placé pour répondre, mais je veux dire, dans un premier temps, je vous donnerai ma réponse là-dessus, mais je voulais quand même rappeler que sur l'incident malheureux de la frontière avec le Tchad, etc., monsieur Poussou a avancé un certain nombre de faits alternatifs pour essayer de justifier cet événement-là. Je crois que ces faits-là sont, heureusement, que ce sont que des faits alternatifs, en fait, que lui-même aurait pensé. Alors, maintenant, sur l'impact donc de ce gel là, c'est vrai que tout ça arrive à un moment où je peux avoir dit au début que c'est quand même un coup dur, et tout ça arrive le pays s'est résolument engagé dans une politique nationale comme ça de recouvrement des recettes, puisqu'il y a des efforts autour dans le pays qui consistent donc à renforcer nos recettes, etc. Bon, alors Maintenant, c'est vrai que tout ça arrive.
C'est-à-dire la reconquête des zones sous contrôle des rebelles et puis
oui,
la.
Et puis améliorer donc la base.
Que les ressources qui étaient pillées par les rebelles passent maintenant sous contrôle des.
Sous contrôle de. Voilà. Donc, donc il y a un effort, une politique nationale, hein, de recouvrement de ces recettes-là. Et donc, qui devait théoriquement. Avoir un oui bien sûr
bah, donc vous n'envisagez pas une démarche de discussion et de rapprochement avec la France, est-ce que quand on vous entend c'est comme si vous avez atteint un point de non-retour?
Non, certainement, on va essayer d'engager, oui, il va y avoir des démarches diplomatiques, hein, dans ce sens-là, pour essayer de comprendre d'abord, ce qui se passe concrètement, hein, où la France veut aller, qu'est-ce qu'elle veut faire, etc. Et ça nous permettra, nous, de reviser notre logiciel, comme on dit, voilà, quoi. Enfin, on verra très bien comment on peut s'adapter, hein, puisque, je veux dire, on reste quand même un pays, quoi. Je veux dire, on va essayer d'améliorer nos finances publiques.
Merci.
Pour essayer de faire face à ce gap-là, qui va manquer.
Merci. Maître Tiangaï, quelle est la meilleure stratégie d'après vous? Est-ce que celle annoncée par M. Adialandi peuvent aboutir? Il parlait de reconquête du pays avec le contrôle sur les ressources pour l'instant qui sont pillées par les groupes armés et peut-être une démarche de discussion, entreprendre des discussions avec les autorités françaises pour qu'elles reviennent sur leurs décisions.
Moi, je pense que c'est le gouvernement centrafricain qui est responsable de la détérioration des relations avec la France. J'avais déjà dit au début de cette émission que on a instrumentalisé les jeunes pour faire des marches, non seulement contre la France, mais même contre les organisations régionales ou sous-régionales comme l'Union africaine, la CEAC.
Excusez-moi, M. Tiangaï, juste pour préciser, quand vous parlez d'instrumentalisation, est-ce que ce n'est pas infantiliser un peu le peuple centrafricain? Vous voulez dire qu'il n'est pas en mesure d'évaluer par lui-même les relations, ce que la Centrafrique a gagné en coopérant avec la France ou avec la Russie?
Non, le problème n'est pas à ce niveau-là. Je pense que la RCA a le devoir ou même le droit de nouer des relations d'État à État avec les partenaires qui peuvent venir en aide à la population. Ça, c'est normal, mais je ne pense pas que les relations que la RCA doit avoir avec la Russie devaient la conduire à adopter une attitude belliqueuse à l'endroit de la France qui est un partenaire traditionnel. Et quand je parle d'instrumentalisation, il n'y a qu'à voir les manifestants qui vont faire des marches devant les sièges des organisations internationales comme la MINUSCA ou la CAC, c'est des jeunes qui sont parfois scolarisés, c'est des élèves qu'on fait sortir des salles de classe, on leur remet des billets de banque pour faire ces marches et des photos sont là pour le prouver. Donc nous pensons que ce n'est pas correct l'attitude de comportement de nos dirigeants, le comportement de nos dirigeants. Ce comportement ne répond pas aux standards diplomatiques acceptés par tous.
Merci beaucoup. En une minute, M. Poussou, votre mot de conclusion, la question aussi au départ était, est-ce qu'on peut parler de point de non-retour entre Paris et Bangui ou malgré tout, il peut encore avoir quelques tentatives de rapprochement et d'apaisement des relations entre les deux pays?
Moi, je pense que le pont n'est pas coupé entre les deux pays, surtout que c'est Paris, en tout cas c'est Emmanuel Macron qui avait demandé au président Touadéra de se tourner vers la Russie, en tout cas d'aller voir le président Poutine pour solliciter une aide et aider son pays à avancer. Vous savez, la Russie, à moins de fabriquer, en tout cas de frapper de fausses monnaies pour ramener en Centrafrique, la Russie ne pourra pas aider notre pays comme ce que fait la France. Alors, le président Touadéra et son équipe seraient bien ou mieux inspirés de renouer le contact, de discuter avec la France qui reste et demeure un partenaire traditionnel de notre pays.
Mais est-ce qu'il est possible de le faire aujourd'hui sans mécontenter la Russie trop présente au goût de certains à Bangui?
Mais écoutez, la Russie ou Wagner, ce n'est pas à Wagner de définir la politique diplomatique de notre pays, c'est à la République centrafricaine. C'est un partenaire comme les autres partenaires, donc il reste que c'est au président Touadéra, à son équipe, de voir où se situent les intérêts de notre pays, et c'est pas forcément en se tournant vers la Russie exclusivement. La Russie reste et demeure un pays.
Il y a aussi la reconquête de certaines parties encore qui étaient encore sous contrôle de rebelles, qui donnent des arguments à ceux qui persistent et signent pour dire que ça vaut le coup de rester lié à la Russie.
Madame, c'est pas à la Russie de libérer nos territoires qui sont sous contrôle des rebelles. C'est à nous, Centrafricains, c'est au peuple centrafricain d'aller se battre pour libérer ces territoires-là qui sont sous contrôle des forces nuisibles.
Merci, Adrien Poussou, expert en géopolitique. Merci à Maître Nicolas Tchangaï de la coalition de l'opposition, ancien Premier ministre. Et merci à Roger Andialandi, membre du MCU au pouvoir en Centrafrique, d'avoir participé à ce débat.